I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Louis. Le mot diagnostic vient du grec diagnostikos, qui signifie capable de discerner. C'est fou comme parfois un simple diagnostic peut changer la donne. Lorsque des mots sont posés sur une pathologie, quelle qu'elle soit, on devient tout à coup capable de discerner. Ça ne signifie pas qu'on est guéri, ni même que la guérison est envisageable ou possible, mais c'est une étape essentielle pour accepter sa maladie ou son trouble. C'est l'étiquette qui gratte qu'on a coupée, ou le caillou retiré de la chaussure. Un soulagement. Dans ce deuxième épisode d'À la recherche de l'attention, Ibrahim, Sarah, Thomas et Jeff racontent comment le fait de savoir de quoi ils sont atteints a radicalement changé leur façon de vivre leurs troubles. Et chez Louis Media, nous avions envie de vous partager leurs témoignages et de vous faire découvrir ce podcast. Il a été réalisé par Pierre et Mathieu Chaffanjon du studio Majora. C'est un documentaire qui nous plonge dans la vie de quatre adultes atteints du TDAH et dont les témoignages sont éclairés et enrichis par celui du docteur Isabelle Lafont, psychiatre et responsable de la consultation TDAH de l'adulte à l'hôpital Sainte-Anne. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Je pense que j'ai un TDAH, je pense pas de haute intensité. Et pourtant, je vois à quel point ça m'a amené derrière, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à être pulsionnel en fait par rapport à la nourriture, à la cigarette, à l'alcool, au cannabis et puis à autres produits de synthèse, comme ce désir en fait irréplaisible de le faire, quoi, vous voyez, d'y aller, quoi, derrière aussi bêtement par immaturité à cultiver aussi une culture de l'interdit autour de la drogue, juste parce que bah voilà, ça m'intriguait, quoi. Et puis une fois qu'on a reçu the thrill, comme on dit en anglais, quoi, là, après, c'est difficile, quoi. On aime bien quand ça se reproduit. J'ai jamais été un grand drogué, quoi. Mais Dieu merci, d'ailleurs. Mais par contre, oui, l'alcool a pris une importance trop importante dans ma vie, due de mon TDAH, ça, c'est certain.
Le TDAH est à voir comme une dysrégulation qui va toucher aussi le rapport aux substances, le sommeil, le comportement alimentaire, l'énergie et l'activité, les émotions, très très important, les émotions. Il y a une hyper-réactivité émotionnelle extrêmement importante. Et la dernière chose, c'est ce que je vous ai dit un petit peu sous le terme de l'hyperactivité idéique, c'est la dernière chose, c'est en anglais ce qu'on appelle le mind wandering, c'est le fait d'avoir sans arrêt une espèce de surplus de pensée. Donc c'est une dérégulation de l'activité, c'est-à-dire c'est soit hyper, soit hypo. Mais c'est pas une activité qui répondrait à la volonté de la personne, c'est un peu quelque chose qui est subi. Et quand on ne sait pas ce que c'est que le TDAH et qu'on ne sait pas qu'on a un TDAH, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui nous arrive.
Mettons que j'arrive dans un bar. Ok. Ton esprit va vers tout. Non seulement tu as trois personnes que tu as rencontrées, donc tu as eu des conversations, mais à côté, tu vas sentir le parfum de la personne à droite, tu vas repérer les personnes qui sont au fond, tu vas entendre la musique de fond, et puis tu vas étudier la ligne de guitare ou la ligne de basse ou le rythme en même temps, tu vas faire un aller-retour avec ça, puis après, tu vas regarder la serveuse, tiens, elle a mis le chorizo ici, etc., donc tu sais exactement où se trouve, et puis après, tu fais des allers-retours comme ça, et puis à un moment, tu regardes partout, toc, 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 toc.
Socialement, c'est une plaie. Hein. C'est une plaie. Parce qu'on a peur de ce qu'on va dire, de la façon dont les autres vont le percevoir. J'ai vite pris le rôle du troublion, quoi. On comprend pas trop ce qu'il dit, mais il fait rire. Il y a l'excès de joie, de rire, de discussion. Et puis, si c'est le moment où on est dans le creux de la vague, là, c'est le dépressif qu'il ne faut pas approcher. Et puis, il y a une étiquette qui arrive sur le front. Bam ! Taré, cinglé, on l'invite plus. Et donc, forcément, quand il y a une soirée, je n'ai pas envie d'y être. Je n'ai plus envie d'y être. Tiens, il m'est arrivé de me dire, stop, va faire comme lui. Bourre-toi la gueule. Au moins, tu vas être comme eux. Tu vas être comme ce groupe-là dans l'assistance. Et puis, on te foutra la paix. Et puis, des fois même, personne ne m'a embêté. Hein. Personne ne m'a embêté. Personne n'a remarqué. J'ai encore rien fait. Mais je suis tellement dans l'angoisse de leur donner ça.
Je suis capable de faire comprendre à quelqu'un que je l'écoute. Alors qu'en fait, en réalité, je l'écoute, mais c'est comme si je prenais 50% de sa bande passante, 60% de ma bande passante était sur ce qu'il était en train de dire, mais 40% de ma bande passante, 45%, ce qui est énorme dans une conversation, c'est comme si vous n'écoutiez qu'un mot sur deux, qui était en fait en train de réfléchir sur ce que cette personne était en train de me dire. Parfois, ça peut être quelque chose de complètement absurde aussi, et c'est là où mon TDAH, il me fait un peu souffrir. Parfois, j'ai des idées qui n'ont pas de sens, en fait.
Une fois qu'on a toutes ces informations et qu'on les a bien en tête, à ce moment-là, je fais l'évaluation du TDAH. C'est une évaluation qui est assez globale parce qu'on doit à la fois avoir des données d'anamnèse, c'est-à-dire de l'histoire du patient, pour essayer de retrouver dans l'enfance un certain nombre de preuves indirectes de la présence déjà du trouble de l'attention. Je pose des questions à ce moment-là sur les émotions pour permettre aux personnes de différencier une hyperréactivité émotionnelle d'un trouble de l'humeur. On regarde s'il y a eu des tentatives de suicide, des épisodes psychotiques, des antécédents psychiatriques au niveau familial dans la branche paternelle et maternelle. Mais aussi, on a toujours en tête, pendant cette évaluation, qu'il s'agit peut-être pas d'un TDAH. Peut-être que c'est une problématique anxieuse, ou c'est une problématique dépressive, ou bien c'est une problématique de personnalité. Je pose des questions, et ensuite, je leur demande de me donner des exemples pour être bien, bien sûr qu'on parle de la même chose. Le premier symptôme, c'est est-ce que vous avez des difficultés à finir vos tâches? Il y a des patients qui entendent juste « est-ce que vous avez du mal à finir ce que vous commencez ?» et qui en perçoivent pas bien toute la question. À travers les exemples, je vais pouvoir comprendre si ils ont du mal à finir leur tâche parce qu'ils sont anxieux, un petit peu obsessionnels et que ils arrivent jamais à aller jusqu'au bout parce qu'ils se disent qu'ils pourraient faire mieux, qu'il y aurait encore des choses à revoir. Le TDAH, qui a du mal à finir une tâche, c'est totalement différent comme registre. C'est vraiment le fait de, en cours de tâche, de trouver autre chose qui est plus intéressant, et donc de se disperser, ou bien de se dire « Oh, ben, ça y est, j'ai déjà fait le principal, je verrai bien plus tard. » Et hop, c'est la procrastination qui prend le dessus. Donc, je veux être bien, bien clair. C'est pour ça que je demande aux patients de me donner des exemples, et quand ils me donnent des exemples, ça me permet de vraiment m'assurer qu'on est bien dans le TDAH à chaque symptôme. Et pour finir, je fais tout un résumé avec tout ce que j'ai recueilli, donc c'est-à-dire TDAH, inattentif ou combiné, à la fois inattentif et hyperactif, accompagné de dysrégulation. Parfois, il n'y en a pas, mais parfois, il y a plusieurs domaines qui sont dysrégulés. Très souvent, les émotions, le comportement alimentaire, le rapport aux substances, le sommeil, etc. Je note quand il y a des antécédents traumatiques aussi. C'est quelque chose que je recherche systématiquement. Une fois que j'ai fait toute cette formulation, je termine par l'impact du TDAH dans la vie du patient, à la fois le domaine académique et professionnel et le domaine des relations et de la vie familiale. Et une fois que ça est terminé, J'ai une bonne idée de ce qui est en jeu et je décide à ce moment-là de proposer un traitement, en tout cas de poser la question au patient si ça l'intéresse. Et il n'est pas nécessaire de faire des examens complémentaires. Il n'est pas nécessaire de faire un bilan neuropsychologique. Il n'y a pas d'examen complémentaire au niveau de l'imagerie médicale ou de la biologie qui peuvent contribuer au diagnostic.
Noé, mon fils, qui a maintenant bientôt 13 ans, là, dans quelques jours, on va dire que très tôt, on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'école nous a convoqués pour nous dire qu'il n'arrivait pas à le gérer, qu'il allait trop vite pour ses camarades de classe, qu'il ne respectait pas les codes, qu'il parlait tout seul. On nous a demandé d'aller consulter. Tout ce qui s'est dit quand on a consulté, la ressemblance entre Noé et moi est apparue en fait. Tout ce qui se disait, j'en avais froid dans le dos. Il était assis entre sa mère et moi. Et j'avais l'impression d'être accusé, parce que j'avais l'impression qu'il parlait de nous deux. En fait, tout ce qui était présenté, ça me ressemblait. Et ma femme me regardait droit dans les yeux. En me faisant des signes. Parce qu'on a pris le parti, elle et moi, d'essayer de ne pas être dans un état de douleur constante. On s'envoie des pics, on en rigole. Et puis là, pendant cette consultation, pendant l'annonce du diagnostic, elle en avait les larmes aux yeux, mais elle en riait, quoi. Elle n'arrêtait pas de dire, c'est toi, elle parle de toi. Elle parle de toi. À partir de ce diagnostic, j'ai compris beaucoup de choses entre mon fils et moi. Beaucoup de choses sur, parce qu'on en a parlé, sur mon enfance, mon adolescence, sur mon décalage d'avec avec le monde, quoi. J'ai fait un ulcère à 27 ans. Cette impression qu'on m'entend pas, qu'il y a des urgences que je ressentais, et puis en même temps il y a une détresse, il y a une envie d'exploser, en même temps une envie de faire vite, une envie de, et puis il y a personne, les gens comprennent pas.
Une fois que tu as ton diagnostic TDAH, ton médecin, enfin ne peut pas établir une prescription. Il faut que tu passes par une prescription à l'hôpital. Donc il a fallu que j'aille à Sainte-Anne recevoir ma petite prescription. Et puis Sainte-Anne, ils ont un super truc parce qu'ils te proposent des séances de psychoéducation. Ils te proposent des séances de groupe, de discussion de groupe. Ça m'a vraiment énormément apporté, et notamment par rapport à la solitude. La première fois, on s'est retrouvé avec une dizaine de personnes dans cette pièce de l'hôpital, avec deux psychologues spécialistes là-dedans, qui étaient vraiment compétentes, vraiment charmantes, elles étaient à l'écoute, elles étaient bienveillantes. Et puis à un moment, au moment où les langues se délient, bah, tu vois, les gens qui sont autour de toi, tu aperçois que t'es plus seul. Elles ne sont que le reflet de ton propre mal-être. Tu vois, et tu dis, mais oui, mais je suis pas seul. Oh, mais oui. Et tu vois, tout ce que tu as pu vivre, tu peux te dire, mais c'est parce que c'est une formation de l'esprit, je me fais trop écouter, je m'écoute trop, je suis trop porté machin. En fait, à ce moment-là, t'es plus seul.
J'étais tellement heureuse d'avoir ma première prescription que j'ai pris un taxi pour aller le chercher. Et j'ai commencé à prendre, donc le lendemain, 10 mg la première fois. Et là, comme dans la pub Perle de lait, et là, mon visage s'est transformé, tu sais. Et non, mais là, ma tête, mais il y avait le silence dans ma tête. Ne pas se sentir vraiment, d'avoir le corps agité, même si ça se voit pas à l'extérieur, de pas ressentir ce bouillonnement intérieur. Ne pas aussi ressentir les moments où on est comme mu par un moteur. comme là, ça y est, ça fait quoi ? À tout péter 4 mois que je suis sous traitement, ben du coup, j'ai oublié ce que c'était d'être sans. Quoique les week-ends, d'habitude, par exemple le dimanche, si j'ai pas prévu de bosser, j'en prends pas. Ma copine me charrie avec ça, elle me dit « Ouais, quand même, ça se voit ».
Le parcours de soins d'un patient avec TDAH, d'abord en général, il y a une errance diagnostique qui dure plus de 10 ans, avec d'autres diagnostics qui ont été posés parfois à tort, pas toujours, ça peut être des comorbidités, mais parfois c'est des diagnostics erronés. Une fois que le patient a le diagnostic, il va rencontrer l'incrédulité de l'entourage, de certains médecins. Il peut être franchement rejeté par certains pharmaciens aussi qui n'aiment pas délivrer la Ritaline parce que c'est considéré comme un stupéfiant. Le méthylphénidate, c'est un cousin des amphétamines qui est décliné en 4 spécialités, la Ritaline, le Quasim, le Medikinet et le Concerta. En général, elles sont faites d'un mélange de libération immédiate et de libération prolongée. Il y en a certaines, 50% de la dose est libérée de façon immédiate et 50% va être libérée dans un deuxième temps et sera prolongée. Donc il va y avoir des plus ou moins longues durées de vie et plus des proportions différentes de formulations immédiates et prolongées. Et puis il y a la Ritaline qui a 2 formes, une forme à libération longue qui dure à peu près 6-8 heures et une forme à libération courte qui ne dure que 3-4 heures. Et puis une molécule qui s'appelle l'atomoxétine qui est non stimulante et qui agit sur la noradrénaline au lieu d'agir sur la dopamine et qui est quand même assez utile, même si elle est souvent moins efficace. Et c'est absolument stupéfiant de voir que des pays que nous regardons, nous, comme étant en voie de développement par rapport à nous, ont déjà des molécules que nous n'avons pas encore. Un jour, j'ai vu un patient qui venait de Syrie et qui avait des molécules qu'on n'a pas en France. Mais j'étais absolument sidérée.
Vous venez d'écouter le 2e épisode de « À la recherche de l'attention », une production du studio Majora. Majora est une société de conception et de réalisation de podcasts fondée en 2020 à Paris. Pierre et Mathieu Chaffanjon, 2 frères passionnés de musique ayant baigné dans le monde de la radio, ont choisi de monter leur propre structure pour réaliser des œuvres originales. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.